Chers amis auditeurs, nous vous proposons d'écouter ce soir une conférence donnée le 3 juillet dernier dans le cadre de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan par François Vergès, intervenant en transformation des conflits. Un écho au thème de cette 18e édition, « La paix aura ton visage », il s'interrogeait sur le conflit, impasse ou opportunité.
Bonjour à tous et à tous. Je suis François Vergès, 62 ans, marié, 3 enfants, et je n'aime pas les conflits. C'est pour ça que je vais vous parler des conflits.
Alors ça se place par rapport à la paix, parce que la paix, c'est pas l'absence de conflit. Parce que le conflit, c'est inhérent à la condition humaine, c'est ça qui nous permet de grandir, c'est ça qui nous permet collectivement de progresser. La paix, c'est des conflits qui sont bien gérés, qui sont bien transformés. Je vous expliquerai pourquoi je préfère ce mot de transformer. Alors, on va passer là au plan, donc la diapo suivante, Agnès. Alors, le plan, j'ai décidé de vous le présenter sous forme de carte mentale. Vous ne lisez rien, je vais vous expliquer. C'est juste pour vous montrer qu'on peut présenter un plan de façon complètement différente. Moi, j'ai un esprit qui fonctionne beaucoup visuellement, donc je fais partie de ceux qui font fonctionner plutôt un hémisphère du cerveau plutôt que l'autre, et un plan séquentiel, ça ne me va pas du tout. Voilà, donc c'est important de se rendre compte que chacun fonctionne différemment. Et dans les conflits, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Alors, en tournant, en commençant par là, je vais commencer par vous présenter, moi, ma vie avec les conflits, et puis en descendant, ma découverte de la TCC, donc j'expliquerai ce qu'est la TCC, puis qu'est-ce que c'est que la TCC, puis je vous expliquerai quelques interventions que j'ai faites, derrière, qu'est-ce que ça a changé pour moi, et puis je terminerai par une ouverture. Sur chacune des planches, vous allez avoir un gros titre en haut, la partie dans laquelle on est, donc ça vous permettra de raccrocher les wagons sans problème. Et on va passer à la première partie, donc ma vie avec les conflits. Comme je vous disais, j'aime pas les conflits, en fait. Ça vient de ma plus tendre enfance, comme beaucoup de choses. En cours de récréation, il y a toujours des conflits, comme généralement ça se règle un peu à la force et que j'étais un peu gringalé, ça m'aidait pas beaucoup. Dans ma famille, en fait, les conflits, ça devait pas exister, donc on n'en parlait pas. Voilà, donc voilà, j'ai démarré dans la vie et j'ai toujours eu aujourd'hui une tendance à vouloir éviter les conflits. Face à un conflit, je suis plutôt dans ce qu'on appelle la stupéfaction. C'est-à-dire, quand je suis face à un conflit, je fais comme face à un ours, on se met par terre, on bouge plus, on espère que ça va bien se passer. Voilà. C'est l'un des modes de réaction du cerveau reptilien, là, les trucs les plus anciens que la nature nous a donné pour nous permettre de survivre. Par rapport à ça, il y a également l'agression. Là, il y a quelqu'un qui arrive en face de moi, là, je monte ma force, mais voilà. Ou alors la fuite, ça peut servir de temps en temps. Et puis, petit à petit, avec l'évolution, on a commencé à vivre en troupeau. Donc après, il y a le cerveau mammifère là, qui est arrivé, où il y a eu de la coopération. Voilà. Donc il y a un autre mode de réaction face à un conflit. Voilà, l'intérêt du groupe devant le mien. Et puis, après, est arrivé le cortex préfrontal et l'homme. Et là, on est dans la négociation. Voilà. Et donc, la façon réellement humaine de traiter un conflit, c'est la négociation, mais il faut pouvoir arriver à cette négociation et cette confrontation avec l'autre. Alors, dans mon histoire, je vais y aller rapidement, mais quand j'étais jeune, en fait, je me suis pas mal intéressé à la non-violence. J'ai eu la chance de rencontrer Pax Christi. J'étais dans une équipe Pax Christi jeune qui a cherché à faire rentrer les notions de non-violence à l'intérieur de Pax Christi. On a fait ça pendant quelques années, on intervenait dans les écoles. Et puis en arrivant sur Toulouse, je m'appelle François, j'ai toujours été très proche de la famille franciscaine. J'ai rencontré un frère qui s'appelle Frère Alain, d'ailleurs il y a son bouquin qui est là-bas, qui m'a formé à la communication non-violente. Et après, avec lui, j'ai animé pas mal de week-ends, de journées pour la famille franciscaine sur ces questions de voilà, comment réagir de façon non violente en situation de conflit. Mais malgré tout ça, dans le monde professionnel, dans le monde associatif, là, ça n'allait toujours pas. Et puis, je rencontrais régulièrement des situations conflictuelles qui créaient de la souffrance. Alors, ça me faisait souffrir moi, et puis je voyais que ça faisait souffrir les gens autour de moi. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai cherché régulièrement à me former, mais ça ne marchait pas en fait. J'avais compris la théorie, j'étais même capable de former des gens sur la théorie. Mais quand je me trouvais face à un conflit, eh bien non, je restais bloqué, je restais stupéfait, là, ça, j'arrivais pas à en sortir. Voilà. Et tout ça, ça me posait question parce que voilà, c'est savoir réagir au conflit, c'est aller vers la paix. Jésus nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et en tant que chrétien, pour moi, c'était réellement important de pouvoir vivre cette dimension d'artisan de paix que je suis intimement convaincu, chaque chrétien doit pouvoir vivre dans le monde. Et un jour, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et je me suis rappelé que 15 ans auparavant, donc les graines, ça peut mettre longtemps à germer, hein. 15 ans auparavant, j'étais dans l'équipe qui avait créé la plateforme pour le commerce équitable. À l'époque, j'étais président d'une fédération nationale de commerce équitable et avec d'autres acteurs, on avait créé une plateforme pour représenter le commerce équitable face au gouvernement, essayer de faire évoluer les lois dans ce sens-là. Et il y avait des conflits internes à la plateforme pour le commerce équitable. Et quelqu'un connaissait un organisme qui pouvait intervenir en situation de conflit. Et on les a fait intervenir. Et j'ai été très intéressé par la façon dont ils ont agi. La façon dont ils ont cherché à nous faire progresser et à transformer notre conflit en faire quelque chose de positif. La chose dont je me souvenais 15 ans après, c'est que pendant un temps très long, que j'évalue à 1 à 2 heures, il a fait reformuler la première personne qui parlait jusqu'à ce que ce qu'elle disait soit entendable par tous les autres sans qu'ils aient des réactions de colère, de peur, etc., qui fassent qu'ils n'entendent plus ce que disait l'autre et qu'ils étaient en train de préparer la réponse pour contre-attaquer. Voilà. Donc il y avait une attention, donc cette association-là qui intervenait sur les conflits, il y avait une attention à ce que chacun puisse s'exprimer, mais puisse s'exprimer de façon entendable par les autres. Et ça m'est revenu et je me suis dit, il y avait quelque chose d'intéressant là dans cette association-là. J'ai retrouvé, elle existait toujours et ils faisaient toujours des formations. Donc je me suis inscrit à une formation et pour la première fois de ma vie, cette formation m'a permis non pas de comprendre les choses, mais de les vivre, de les expérimenter et de vivre une transformation intérieure qui m'a permis de changer ma façon de réagir face à des situations conflictuelles. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que j'en fasse profit d'aide d'autres personnes. Là, c'était un peu la foi du nouveau converti. Et je me suis inscrit à une autre formation qui était professionnalisante, donc de façon à pouvoir devenir intervenant en ATCC. Et suite à ça, j'ai travaillé avec la TCC. Alors, toujours à temps partiel, hein, toujours eu plusieurs activités dans ma vie en parallèle. Et donc, l'une de mes activités était cette activité de transformation des conflits. Alors, ATCC, je vais expliquer. Donc, l'association s'appelle ATCC, ça veut dire Approche et Transformation Constructive des Conflits. ATCC. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, approche et transformation constructive des conflits. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur Internet, vous trouvez plein, plein de choses. Mais je vais essayer de vous faire, dans le temps qui me reste, là, dans les 35 minutes qui me restent, un aperçu de ce que ça peut être et de comment ça peut agir. Ça avait agi sur moi, donc ça c'était la première expérience que j'en avais fait, mais comment ça peut agir plus largement sur des groupes en conflit en particulier. Alors, un tout petit peu d'histoire. La TCC, c'est né de deux personnes. Une personne qui s'appelle Hervé Hoth, qui est décédé il y a 2 ans, qui était l'un des artisans de la lutte du Larzac. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'était les personnes qui avaient lutté de façon non violente contre l'installation d'un camp militaire au Larzac. Et donc, à partir de cette expérimentation concrète, ça lui avait donné des idées. Il avait vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Après ça, il est allé en Nouvelle-Calédonie pour travailler avec les Kanaks, pour essayer de former les Kanaks à l'action non violente. Bon, il a fait plein de choses dans sa vie. Et un jour, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Karl-Heinz Bittel, qui lui est allemand et qui travaillait à la réconciliation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Parce que ça n'a pas été si simple. Et qui également, partant de ce qu'il était, avait mis en place un certain nombre d'outils, de concepts permettant de faire progresser cette réconciliation. Et ensemble, ils ont échangé sur ce qu'ils faisaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très proches et ils se sont dit il faut qu'on forme d'autres personnes, et ils ont décidé de faire des formations franco-allemandes. Et à l'époque, c'était des formations sur 3 ans, avec des semaines en France, des semaines en Allemagne, des traductions en permanence, donc ce qui fait que ça allait très lentement. Et donc toutes les premières personnes qui ont participé à ce mouvement et à cette méthode ont été formées de cette façon-là. Voilà. Alors ça, c'est les deux fondateurs. Et puis, il y a un certain nombre de sources. Alors, on va passer à la diapo suivante. Il y a des sources dans les différents domaines. Donc, vous pouvez voir de ce côté-là l'hexagone des conflits. Ce qui est important, c'est que les conflits, ça a été défini par l'un des fondateurs de l'irénologie, donc la science des conflits. Il y a 3 dimensions principales qui sont la dimension personnelle, la dimension structurelle et la dimension culturelle. Et puis la spécificité de la TCC, c'est d'avoir mis entre ces 3 pôles, 3 autres pôles qui permettent de voir les interactions entre ces dimensions-là. Et puis après, il y a des interactions dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer dans un conflit par n'importe laquelle de ces dimensions. Et ça permet d'y accéder. Et puis après, de toute façon, toutes les dimensions sont présentes dans le conflit. Il va falloir aller les regarder toutes les unes après les autres. Alors, les sources, en fait, dans la dimension personnelle, il y a René Girard, et en particulier sur tout ce qui est l'escalade mimétique, le bouc émissaire. Il y a Carl Rogers, sur la question d'accompagnement personnel, de transformation personnelle. Il y a Marshall Rosenberg sur toutes les questions de communication non violente. Sur la dimension, collective et structurelle, il y a tout ce qui est la systémie et l'école de Palo Alto. Il y a également quelqu'un qui s'appelle Charles Massiot, qui avait beaucoup travaillé sur les organisations, en particulier dans l'éducation populaire. Et puis, sur la dimension culturelle, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques de Morgon, qui a travaillé sur les antagonismes fondamentaux. Bon, je ne vais pas rentrer en détail de tous ces concepts-là, mais en fait, à la fois, ils sont repartis de choses existantes et ils y ont rajouté quelques éléments propres à partir de leurs recherches et de leurs expérimentations. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais voulu créer un système. En fait, ce n'est pas la TCC, ce n'est pas une théorie explicative du conflit, ce n'est pas quelque chose d'englobant qui traite tout, c'est un ensemble d'outils et de concepts qui sont mis à disposition des formateurs ou des intervenants de la TCC ou des groupes en situation de conflit, de façon à ce qu'ils puissent choisir, grâce au concept, à mieux comprendre ce qui leur arrive, et grâce aux outils, qu'ils puissent choisir les outils qui sont les plus pertinents dans leur situation. Voilà. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'on n'arrive pas, en particulier en tant qu'intervenant, on n'arrive pas avec une solution toute faite, ou notre idée de la solution. Quand on rencontre quelqu'un ou qu'on rencontre un groupe, la première chose qu'on demande, c'est quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin. Et ça fait écho en moi avec quand le Christ rencontre quelqu'un, quasiment dans tous les cas, il demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit pas je vais te guérir d'abord, etc. Il commence par demander à la personne, que veux-tu que je fasse pour toi. Et ça me paraît quelque chose de fondamental dans l'approche du conflit, ne pas arriver avec une solution, mais être attentif et donc demander à l'autre qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de donner ce qu'on appelle les modalités de satisfaction de ses besoins. Si j'essaye d'imaginer comment satisfaire ses besoins, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter sur lui ma façon de satisfaire mes besoins. C'est-à-dire pour soi que très souvent, quand on offre un cadeau, on se fait très plaisir parce qu'on a fait un cadeau qui nous ferait plaisir, mais ça ne fait pas forcément plaisir à l'autre. Voilà. Donc il vaut mieux demander à l'autre ce qu'il veut comme cadeau. Alors, de temps en temps, c'est bien de faire des surprises, mais voilà, par moment, c'est bien aussi de demander à l'autre. Et en particulier, quand il s'agit de conflits, la première chose, c'est de demander à l'autre. L'autre point qui me paraît important là, dans cette approche et transformation constructive des conflits, donc qui est à la fois, comme je l'ai dit, un ensemble d'outils, de concepts, mais également un ensemble de personnes, c'est-à-dire c'est une association, et les membres de l'association sont à la fois intervenants en ATCC, donc font soit des formations, ça c'est plutôt le côté préventif des conflits, voilà, former un groupe à mieux comprendre comment s'organiser pour minimiser la probabilité d'occurrence de conflits dans le groupe, soit intervenir en situation de crise, voilà, il y a un groupe qui va réellement mal, où il y a des choses dures qui se passent, qui génèrent de la souffrance, voilà, ben, aller dans le groupe et avec le groupe, voir qu'est-ce qui est possible pour transformer cette énergie du conflit qui crée de la souffrance, utiliser cette énergie pour créer quelque chose de positif pour les individus et pour le groupe. Et donc ces individus, là, ces personnes ben, qui travaillent au sein de l'association, ben, comme les fondateurs, continuent à faire évoluer les outils, les concepts. En permanence, il y a de nouvelles expérimentations, de nouvelles idées, parce que c'est, voilà, on a l'habitude de dire que le conflit, c'est un mystère. Donc le conflit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre. Quand j'entends résoudre les conflits, c'est pas comme un problème. Le conflit, c'est quelque chose qui implique de l'humain, qui implique des émotions, qui implique de l'énergie. Et donc, on peut transformer ce conflit en quelque chose de positif, mais le conflit, il est là. On va pas le résoudre, c'est un peu comme vouloir le mettre sous le tapis et on n'en parle plus. Non, on ne résout pas un conflit, on le transforme. Et donc, cette expérimentation continue. Je vais donner un ou deux exemples. Le premier exemple, en fait, il y avait l'un des intervenants d'ATCC Institute qui s'appelait Jean-Jacques Samuel, qui avait créé un outil qui s'appelait le Pétrin, qui permettait de s'interroger sur quelles sont mes émotions et comment je peux utiliser mes émotions pour faire avancer le conflit. Et ça, c'était transformé, donc ce qu'on voit de l'autre côté, par un outil qui s'appelle Piste. Alors Piste, ça veut dire perception, intention, sanction, pour une transformation émotionnelle de la souffrance. Voilà, donc donc perception, intention, sanction, je vais dire ce que ça veut dire, pour une transformation émotionnelle de la souffrance. En gros, la situation de conflit nous met en souffrance, ça c'est clair, et derrière, ce qui se passe, c'est que le pôle perception, c'est la victime, et très souvent, on est bloqué dans cette situation de victime, on se sent totalement impuissant. L'intention, c'est celui qui a la toute-puissance, voilà, et qui veut en faire quelque chose, et c'est souvent l'agresseur. Et les rôles de victime et l'agresseur, là, ça balance très souvent entre les deux. Parce que quand la victime répond du tac au tac à l'agresseur, en fait, l'agresseur se sent agressé, donc se retrouve victime. Et généralement, on se retrouve dans un ping-pong entre la victime et l'agresseur en permanence. L'une des solutions pour essayer d'en sortir, c'est qu'il y a un sauveur qui arrive, et ça a été démontré depuis très longtemps que le rôle de sauveur, c'est encore pire, parce que très souvent, le sauveur, comme il sait ce qu'il faut faire, ben, il va se retrouver victime et sans doute des fois attaqué par les deux. Non, ce qu'il faut essayer, c'est d'arriver dans ce qu'on appelle le pôle sanction, voilà, qui est également le pôle dans lequel je peux me positionner en tant que garant, et où là, je ne suis plus sur le coup de mes émotions et je suis capable, on va dire, d'interagir avec l'autre en tant qu'être humain et de rentrer en négociation avec lui. Si vous vous rappelez le tout début, là, c'est le propre de l'être humain là, d'être capable de négocier et de ne pas être dans les modes de réaction, on va dire, à la fois reptilien ou mammifère. Voilà, l'être humain peut aller plus loin. Voilà, donc ça, c'est un outil qui a été créé et qui permet de se poser la question de comment faire pour sortir du conflit en bougeant C'est-à-dire, on a par terre là ces différents pôles et les gens expérimentent de passer d'un pôle à l'autre en bougeant physiquement parce que le corps est également impliqué dans le conflit. Et donc, le fait de faire bouger le corps lui-même, ça permet de, voilà, d'avancer et de trouver sa façon de faire. Comment est-ce que je pourrais faire, en fait ? Parce que dans le, sous le coup du conflit, on a beaucoup de mal à identifier quoi faire. Le fait d'utiliser cet outil piste, soit seul, soit collectivement, pour se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour en sortir ? Ça permet d'expérimenter différentes hypothèses et ça permet de trouver ce qui nous semble être ce qui pourrait avoir le plus de chances de fonctionner. Et derrière, on va pouvoir l'expérimenter en situation réelle. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais au moins, je suis sorti de l'impuissance et je me suis donné les moyens de tenter quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'outil qui a été créé. Deuxième chose qui a fait évoluer, là, c'est toutes les neurosciences, en particulier pas mal de recherches là, de Damasio sur comment en fait, le cerveau fonctionne, et, voilà, qui a permis de donner aussi une compréhension scientifique de ce qui se passe. Voilà, quand je tombe toujours dans ma stupéfaction, c'est parce que dans mon cerveau, il y a des chemins neuronaux qui sont favorisés parce que ça passe toujours par là, c'est plus large. Par contre, les neurosciences ont montré que le cerveau restait plastique toute la vie et qu'il était tout à fait possible de créer un deuxième chemin, un chemin alternatif. Et quand il y a un chemin alternatif, en fait, le cerveau reptilien, il ne passe plus immédiatement là, sur le chemin habituel, mais il dit « Ah, j'ai deux voies possibles, j'appelle le superviseur au niveau dessus pour choisir. » Et à ce moment-là, je peux choisir. Et même, au bout d'un certain temps, si le deuxième chemin, on finit par le faire toujours passer par le deuxième chemin, bah, il est plus creusé que l'autre, et finalement, l'autre s'enherbe un peu, et le cerveau va faire passer en mode automatique par l'autre chemin. Voilà. Donc, les neurosciences montrent que des techniques ou autres qui étaient mises en place un peu expérimentalement et qui avaient l'air de fonctionner, en fait, sont cohérentes avec la compréhension qu'on a aujourd'hui du fonctionnement du cerveau. Et puis, dernières expérimentations en cours, il y a un groupe là, à TCC Institut qui s'appelle un groupe Justice Sociale, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les oppressions systémiques, tout ce qui est lié aux oppressions liées aux différences de race, de genre ou autres, et qui est en train d'amener une nouvelle dimension dans l'approche des conflits, parce que cette dimension d'oppression systémique n'était pas vue du tout, ou n'était pas totalement conscientisée ou exprimée, et là on commence à avoir des outils qui permettent de l'exprimer et de permettre aux membres d'un groupe de mieux en prendre conscience. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce que la TCC, comment ça fonctionne. Et on va passer à la partie suivante, qui est quelques exemples concrets. Alors, premier exemple concret, je commence par une réussite. C'est l'une des fois où ça a le mieux marché. Alors, bon, mais après, je vais prendre un exemple où ça ne marche pas, pour vous montrer, quand j'interviens, ce n'est pas toujours la perfection. J'étais invité à intervenir dans une mairie, parce que la DGS, donc directrice générale des services, était quasiment en burn-out. Et l'une des raisons semblait être qu'il y avait du harcèlement de la part du premier adjoint, donc l'élu là juste en dessous de la maire. Donc j'avais organisé une formation donc, pour elle, et puis il y avait des problèmes avec les agents aussi. Bon, voilà. Mais au cours de la formation, il y a un exercice qui s'appelle le stop, qui permet de prendre conscience que quand... la situation où ce que fait l'autre n'est plus acceptable, soit vis-à-vis de la loi, soit vis-à-vis de mes besoins et de mes limites, c'est-à-dire qu'il transgresse mes limites sans me demander l'autorisation, et ça, c'est ce qu'on appelle de la violence. Quand je suis dans cette situation-là, mon devoir, c'est de dire stop. Et que le stop, dans la culture française en particulier, c'est... quasiment toujours entendu, et l'autre personne, soit ça, enfin, généralement, s'arrête et réfléchit un minimum. Et puis, donc, c'est une formation sur 2 journées, Et j'arrive à la deuxième journée, et puis en début de journée, on fait toujours un petit point sur comment ça s'est passé depuis la dernière fois, qu'est-ce que vous avez mis en application, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et cette personne-là dit, mais c'est extraordinaire votre truc. La dernière fois que le premier adjoint est entré dans mon bureau, alors d'habitude, il entre dans le bureau, il s'asseoir à côté d'elle, il lui met la main sur l'épaule, il lui... Ben, bon. Je lui dis, tu frappes avant d'entrer. Et puis, je te dirai si je suis disponible ou pas. Voilà. Et puis après, tu viens t'asseoir en face de moi et tu me dis de quoi tu veux parler et on en parle. Elle me dit, depuis que je lui dis ça, eh bien, il frappe avant d'entrer. Si je lui dis non, on revient dans 10 minutes, il revient dans 10 minutes. Voilà. Alors qu'elle, elle ne se donnait pas la permission de le faire parce qu'elle disait, oui, mais c'est quelqu'un de la vieille école, il a toujours fait ça toute sa vie, c'est pas du harcèlement, c'est normal, etc. Eh bien, non. Voilà. Et donc, le fait d'oser dire stop et de se donner l'autorisation de dire stop, ça peut avoir un impact extraordinaire. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, de temps en temps, ça marche super bien. Un autre exemple, je suis intervenu, donc c'était l'an dernier, dans une équipe d'hospitalisation à domicile, qui, depuis 3 ans, vivait des situations conflictuelles au sein de l'équipe. Situation conflictuelle pour moi également exacerbée par le fait qu'ils sont en sous-effectif, en surcharge, qu'ils n'arrivent pas à faire bien leur travail, alors que les gens qui font ça, c'est parce qu'ils aiment leur boulot et qu'ils veulent que leurs patients, souvent en fin de vie, soient bien traités. Et donc, ils en arrivent à être maltraitants parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ça les met encore plus mal. Et donc, ils réagissent face aux autres membres de l'équipe. Voilà. Donc, il y a à la fois un contexte et puis une situation dans l'équipe qui faisait que ça devenait de plus en plus insupportable. Il y avait des arrêts de travail permanents, des démissions. Voilà. Et les infirmières coordinatrices et la direction ont fini par faire appel à TCC Institut et à moi pour essayer de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'ils étaient dans une telle situation de surcharge que, autant la mairie, j'avais réussi à avoir 2 jours d'intervention, ce qui souvent est le minimum pour arriver à faire quelque chose. Là, j'ai réussi à avoir 2 fois 2h30 entre midi et 14h30 parce que c'était le moment de leur pause. Voilà. C'était pas payé. Ceux qui étaient en congé ce jour-là ont accepté de revenir. Et en gros, toute l'équipe était là. Donc, ça veut dire qu'ils voyaient vraiment l'importance de faire quelque chose. Et dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je commence par faire ce qu'on appelle de la régulation, c'est-à-dire leur permettre à chacun d'exprimer ses émotions et ce qu'il ressent dans la situation actuelle face à l'ensemble du groupe de façon, et à l'exprimer de façon à ce que ce soit entendable par l'ensemble du groupe, avec un cadre de sécurité très borné et dont je suis garant et qui est élaboré, enfin qui est validé par l'ensemble des membres du groupe, qui éventuellement on rajoute des choses à ce que je propose si certains en ont besoin, de façon à ce que chacun se sente vraiment en sécurité. Et donc ça a bien marché, c'est-à-dire chacun a pu exprimer ce qu'il ressentait dans la situation, ce qu'il faisait souffrir, de quoi il avait besoin. Derrière, on a eu un peu le temps, la fois suivante, de commencer à exprimer les modalités de satisfaction des besoins. Parce que la deuxième étape, c'est face à cette situation-là, moi, de quoi j'aurais besoin pour aller mieux? Et comment est-ce qu'on peut l'intégrer collectivement dans le fonctionnement du groupe? Mais là, c'est vachement compliqué parce que c'est éventuellement changer des rotations, changer des équipes, etc. Et c'est pas si simple et ça prend du temps. Et donc, on a réussi à identifier 1 ou 2 points relativement simples. Par contre, sur les trucs qui grattaient vraiment, dans le temps imparti, on n'a pas réussi à aller plus loin. Pour moi, ce qui a été important, et donc la fin de l'histoire, c'est que donc, dans ce qu'ils ont exprimé à la fin des 2 fois 2h30, ils ont exprimé qu'ils étaient frustrés, qu'ils pensaient que ça n'avait pas été très utile parce qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Un an plus tard, donc, j'ai eu quelques nouvelles parce que j'envoie des vœux chaque fois. Voilà, et ça répond pas. Mais là, l'infirmière coordinatrice a répondu que son autre collègue infirmière coordinatrice avait démissionné et que l'une des personnes dans le groupe qui, au cours du tour, chacun avait dit qu'il avait vraiment du mal à travailler avec lui, etc., avait décidé de quitter l'équipe. Et je pense que soit il se serait fait virer, soit il aurait quitté l'équipe, mais dans de mauvaises conditions. Le fait de pouvoir quitter l'équipe, parce que lui également a pu exprimer comment il sentait les choses, qu'est-ce qu'il essayait de faire, les efforts qu'il essayait de faire pour que ça aille mieux, Le fait de pouvoir s'exprimer, ça permet de partir de meilleures conditions que quand rien n'est dit. Voilà, donc j'aurais, moi, au moins la satisfaction qu'ils aient pu s'exprimer avant ça, et puis la frustration de ne pas pouvoir avoir complètement transformé la situation en quelque chose de totalement positif. Mais voilà, c'est la limite de ce qu'on fait. En tant qu'intervenant, j'ai des obligations de moyens et pas de résultats, parce qu'autrement, je serais un magicien. Donc je ne suis pas un magicien, j'explique bien aux personnes qui m'embauchent voilà, que je vais tout mettre en œuvre pour permettre à l'équipe d'aller mieux, mais que ben voilà, je donne des opportunités, j'ouvre des portes, après les gens s'en saisissent ou pas, ou sont capables de s'en saisir ou pas, parce que c'est pas toujours si simple, hein, même si on a envie de s'en sortir, c'est pas toujours si simple. Et puis derrière, ça m'amène à réfléchir à est-ce que je continue à accepter ou pas des interventions sur une durée très courte. Est-ce que je continue à accepter ou pas des interventions où l'une des causes est clairement structurelle et dépend du contexte. Aujourd'hui, là, il y a plein d'associations qui vont mal parce qu'il y a des baisses de subventions, que les gens savent qu'ils vont être virés, etc. Voilà, c'est dans les EHPAD, j'interviens aussi régulièrement, c'est la même chose. Voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Donc ça m'amène moi aussi à me questionner. Un autre exemple, alors là, c'est de la prévention. Donc là c'est une autre façon d'intervenir. Les deux premières interventions, c'est une situation de crise. Là, c'est de la prévention pour les missions locales dans une région proche où il y avait 4 jours de formation sur la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et ce qui a été intéressant, c'est donc, en fait, la méthode de la TCC, c'est je ne fais pas de cours, en fait. Je ne donne pas de théorie. Je commence par proposer des exercices qui vont permettre aux gens de prendre conscience de certaines choses. Et l'une des choses qui m'a marqué la dernière fois que j'ai animé cette formation-là, c'est quelqu'un à la fin qui dit « Ah ouais, cet exercice... Alors, c'était comment Et bien justement, c'était sur cet exercice de stop, là, je leur avais dit, ben, vous vous dirigez vers l'autre, voilà, et puis et les autres peuvent dire stop quand ils sentent le besoin de dire stop. Et en fait, la personne avait dit, mais j'avais envie de ne pas écouter le stop et de continuer, de voir ce que ça donnait si je continuais, mais c'était dans la consigne de s'arrêter quand on dit stop. Je dis non, j'ai jamais dit ça. Et en fait, ça a été une prise de conscience que en permanence, quand on entend une consigne, quand on entend une règle, en fait, il y a toujours des trous. Ça ne couvre pas tout, c'est pas possible. Et donc, je suis en permanence en train moi-même, avec mon histoire, etc., de boucher les trous, de compléter. Et pour cette personne-là, c'était une découverte extraordinaire de dire « Mais oui, mais c'est la même chose à quand ma chef me dit ça. Ah oui, mais je l'interprète comme ça, mais c'est peut-être pas ça qu'elle veut dire. » Et donc, de dire « Quand je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et que je suis en train d'interpréter, de demander à l'autre « Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire ?» Voilà, donc c'est l'idée de ces exercices, c'est vraiment de... Comment c'est l'effet « Ah ouais !» Et là c'est ça, quand c'est tout gagné, quand la personne se dit « Ah ben ouais, il y a un truc là, je viens de comprendre. » Mais ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est un truc qui est plus profond, en fait, qui vient des tripes, qui vient de, voilà, des émotions. Voilà. Et donc, toute la méthode est faite pour permettre ces prises de conscience. La deuxième chose, là, dans ces interventions, c'est que et c'est marqué, voilà, on le vend comme ça aux commanditaires. Il y a toujours marqué, ce programme de formation est susceptible de modification pour prendre en compte ce qui émerge du groupe ou de l'individu. En permanence, on peut s'adapter en fonction de, ben voilà, des prises de conscience ou pas, de sujets qui vont émerger. quand on travaille avec des missions locales, il y a beaucoup d'exercices, on leur demande de, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les missions locales, et qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent l'exprimer, et qu'ils puissent ensemble chercher à trouver comment améliorer ces situations-là. Et pour moi, là, ce côté... En préparant la conférence, je me suis dit, et je vous le redirai à la fin, là, pour moi, cette méthode était vraiment congruente et cohérente avec ma foi chrétienne, ou la façon dont je la vis, sur ce primat de la conscience individuelle, sur la liberté. À chaque fois, je me suis dit, en préparant, tiens, quel lien je pourrais faire ? Et là, je me suis dit, là, c'est en venant en vélo, là, je l'ai rajouté sur mon papier, là. Se faire avec ce qui émerge, c'est un petit peu le... Ben, on a 5 pains et 2 poissons. Voilà. Et Jésus aussi, il a fait avec ce qu'il y avait, avec ce qui émergeait, quoi. Et donc, il y a quelque chose de profondément humain et de profondément grandissant de faire avec... Voilà, avec ce qui est là, avec ce qu'il y a, et de ne pas vouloir imposer quelque chose qui n'est pas là ou qui vient de nos idées ou de notre idéologie ou autre. Voilà. Autre chose qui avait émergé là, pendant cette formation-là, c'est la question des rites. Les rites, là, c'est tout à l'heure, là, c'est le rite, c'est ce qui permet de mettre en œuvre dans un contexte culturel donné. Les besoins d'une structure. Et je leur disais, dans les rites importants, il y a les rites de départ. Alors, le rite de départ le plus simple, là, c'est les gens qui partent à la retraite, on fait un pot. Ça, généralement, c'est fait. Mais s'il y a quelqu'un qui part parce qu'il est viré ou autre, est-ce qu'on fait quelque chose ? Généralement, non, on ne fait rien. Alors que, à la fois pour la personne qui part et à la fois pour ceux qui restent, le fait de ritualiser ce moment-là, ça permet de faire un certain deuil, ça accompagne. Enfin, les rites, c'est quelque chose de fondamental dans la façon de l'être humain de fonctionner. Et donc, ils se sont dit, mais oui, mais là, il y a quelque chose qui manque. Et puis même, ils disaient, mais maintenant, le rite d'accueil, on ne le fait plus. Il y a quelqu'un qui arrive dans la mission locale, on lui remet un document et puis c'est terminé. Il y a quelqu'un qui revient après 3 mois de congé maladie, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, de dire, il y a ces moments importants-là, aussi bien pour le groupe que pour la personne, il y a besoin de les ritualiser et de créer quelque chose. Voilà. Et puis, dernier exemple... J'interviens aussi pour accompagner des groupes alors qu'ils ne sont pas en crise mais qui veulent construire quelque chose. Et là, c'était des groupes en fait, qui voulaient monter des tiers-lieux, donc dans lesquels il y avait à la fois des représentants de la mairie, des représentants de la société civile, des représentants des commerçants, etc. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment se structurer pour que ce tiers-lieu fonctionne avec des gens si différents qui ont des intérêts complètement différents. Voilà. Et l'une des choses dont ils ont pris conscience, c'était par exemple, et je reviens sur les questions culturelles et les antagonismes fondamentaux, c'est l'un des antagonismes fondamentaux les plus classiques qu'on vit tous dans les groupes, c'est l'antagonisme entre la relation et la production. Pour certaines personnes, quand elles sont dans une réunion, ce qui est important, c'est la production, c'est-à-dire il y a un ordre du jour, il faut finir l'agenda, il faut prendre les décisions. Et puis pour d'autres personnes, ce qui est important, c'est de prendre du temps pour que chacun puisse s'exprimer, pour mieux connaître les uns et les autres, etc. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de ces deux pôles ? Et ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une espèce de négociation là où on se trouve au milieu et tout le monde est frustré, mais c'est ce qu'on appelle nous trianguler, c'est-à-dire trouver une autre façon qui est ailleurs où tout le monde se sente bien. Et l'exemple dans ce groupe-là, c'est trouvé, pour prendre un exemple concret, il fallait prendre des décisions, enfin, il fallait mettre à jour le compte-rendu qui était fait par une personne et qui était validé au début de la séance suivante. Simplement, quand la personne faisait le compte-rendu, là, à partir des notes qu'elle avait prises, il y a des moments où elle se disait « Ah ben oui, ça, on l'a quasiment dit, mais pas totalement, donc ça serait bien de le verbaliser comme ça. » Et donc, elle Voilà, prenez des libertés de remettre en forme, parce que quand on met un truc oral à l'écrit, là, on se rend compte qu'il y a des manques ou des choses comme ça. Et donc, elle le faisait, et puis elle l'envoyait par mail à tout le monde, en demandant est-ce que c'était bon. Généralement, il n'y avait aucune réponse, et puis au début de la réunion suivante, on validait. Simplement, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais non, mais parce qu'on n'en a pas discuté, ça ne va pas du tout. » Donc, ce qu'ils ont décidé à la fin, après de longues discussions, et ce qui était important, c'est que dans la discussion, chacun a pu exprimer de quoi il avait besoin dans une réunion ou dans une décision. Donc ça couvrait ce point-là, mais c'était beaucoup plus large et ça leur a permis derrière de mieux se connaître et de prendre d'autres décisions de façon plus positive. Ils ont décidé que la personne envoyée par mail, en fonction des réponses des mails, elle mettait à jour le compte-rendu et qu'il y aurait un temps de discussion au début de la séance suivante sur les points qui avaient été modifiés. Donc ça permettait... Voilà, et ils étaient tous contents avec cette décision-là et c'est ça qui était important. En fait, et moi, je n'étais pas là pour leur amener une solution, j'étais là pour animer la réunion pour qu'ils puissent trouver cette solution-là sans se taper dessus. Voilà, parce que très, très rapidement, ça, si j'ai l'impression que mon besoin n'est pas pris en compte ou que l'autre ne m'écoute pas, je peux monter dans les tours et puis voilà, on fait poum, 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 et ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, donc, le dernier point, c'est dans ces groupes-là, de mettre en place ce que j'appelle une gouvernance incluante ou une gouvernance horizontale, c'est-à-dire de plus en plus dans le monde associatif. Il y a des recherches sur la gouvernance en cercle ou des choses comme ça, qui permet à ce que chacun se sente intégré dans les décisions, que chacun puisse prendre des décisions. Dans la doctrine sociale, ça s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions soient prises au bon niveau. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui réellement se met en place dans un certain nombre d'organisations, principalement associatives, ou entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et je trouve que c'est voilà, dans la prise en compte de l'être humain et de la responsabilité de chacun, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, maintenant, on va sur le point suivant. C'est qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Et bien la première chose, c'est que ça a changé ma façon de réagir par rapport au conflit. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je suis face à une situation conflictuelle, dans, allez, on va dire, allez, 80% des cas, j'arrive à confronter l'autre personne et à rentrer en débat avec elle pour essayer de trouver une solution commune. Voilà, je suis encore un petit peu stupéfait par moment, mais voilà, de moins en moins. Ça vient également du fait qu'une intervention réussie au sens de la TCC, c'est une intervention qui transforme l'intervenant. Parce que l'intervenant n'est pas quelqu'un d'extérieur, en fait. Du fait même que je sois dans le groupe, en tant que formateur ou en tant qu'intervenant, j'ai ma place et je rentre dans le système et je fais évoluer le système. Et donc, je ne peux pas m'arroger un espèce de droit de neutralité. Même si je veux être neutre, je ne peux pas l'être totalement. Et j'influence forcément le groupe. Et donc, si je m'implique pleinement dans mon rôle, et en particulier, parce que la TCC est beaucoup basée sur l'expression des émotions, que j'exprime mes émotions, eh bien, ça permet également aux autres membres du groupe de se sentir autorisés à exprimer leurs émotions parce que ben, l'intervenant, le formateur le fait, donc ben, voilà, je suis autorisé à le faire. Mais le fait de le faire, ça demande d'accepter une certaine vulnérabilité. Voilà. Et donc ça, je dirais, spirituellement et individuellement, c'est une expérience intéressante et qui fait grandir. Voilà. Et la même chose, Jésus, quand il agit, dans un certain nombre de cas, on dit il est pris aux entrailles. Voilà. C'est-à-dire, le moteur de son action, c'est également ce qu'il va ressentir de la situation ou de sa rencontre avec quelqu'un. Voilà, ça c'est sûr ce que ça a changé sur moi. Alors, j'avais dit que je terminerai par une ouverture, et on peut passer sur la dernière. Voilà. Sur une ouverture. Alors, deux points. Le premier, là, que j'ai rajouté il y a 15 jours, parce qu'il y avait un dossier dans la vie très intéressant sur le coaching dans l'Église. Voilà. Et qui m'a intéressé, parce que ça faisait écho, on va dire, au moins sur deux points avec ma pratique. Le premier, c'était qu'il fallait absolument distinguer les domaines entre le pro, le psy et le spi. et que le coach, il devait être uniquement dans le pro. Et ça fait vraiment écho avec ma pratique et ma déontologie qui est quand je me rends compte à un moment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre psychologique, pathologique, je le dis et je dis à la personne en cause que pour moi, elle aurait besoin d'aller rencontrer un spécialiste de ce domaine-là, que moi, ce n'est pas mon domaine, donc je ne peux rien faire. Voilà. Et donc, c'est important de connaître ses limites, de les accepter et d'oser le dire. Voilà. Et puis, l'autre point, c'est que, je parlais de Carl Rogers, mais la façon dont j'accompagne un groupe est très basée sur le fait de laisser les membres du groupe et le groupe collectivement libre de ses décisions. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent prendre les bonnes décisions pour eux. Voilà. Et si j'arrive comme un consultant avec une solution que j'ai créée pour eux, j'ai très forte chance que ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce qui leur convient. C'est eux qui connaissent leurs besoins. Et ça, pour moi, c'est très proche et très en lien avec l'accompagnement ignatien. Je m'étais formé à une époque de ce côté-là. Et cette notion de laisser libre et d'accompagner cette liberté, c'est quelque chose qui me paraît fondamental et qui, pour moi, est au cœur de ma foi chrétienne. Et je pense que c'est comme ça que Dieu nous accompagne aussi. Et puis, l'autre point, c'est, j'ai appelé ça pour une gouvernance incluante, en fait, toutes les expérimentations que je fais sur d'autres types de gouvernance qui respectent profondément chaque être humain, je me dis, mais c'est vraiment fantastique, c'est totalement cohérent avec ma foi. Et je me dis, mais c'est vraiment dommage que l'Église ne s'approprie pas ou n'étudie pas ces nouveaux modes de gouvernance. Il y aurait peut-être des choses extraordinaires à faire de ce côté-là. Et quand je vois que la solution aux difficultés de faire vivre une communauté, c'est de dire, il faut former le prêtre au management, qui devienne un leader, qu'il exerce du leadership, pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, en entreprise, je sais que le leadership, c'est pas quelque chose où c'est très difficile à apprendre. On peut prendre quelques réflexes, mais les capacités de leadership, on les a ou on les a pas. Voilà. Et puis, concentrer le pouvoir sur une personne, c'est l'une des choses qu'on cherche à déconstruire en permanence dans les groupes pour que ça fonctionne. Voilà. Et je terminerai en disant, ben, par rapport là, au thème de la paix, j'ai repris une citation. Alors, je ne sais pas de trop de qui elle est, si c'est de Tolstoï, de Gandhi. Il y a d'autres personnes également qui l'ont repris, donc c'est quelque chose de très large, qui est « Pour changer le monde, il faut commencer par te changer toi-même ». Et voilà, quand j'étais jeune, j'avais envie de changer le monde. À un moment, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas trop, que ça marchait pas vraiment. Et depuis ce temps-là, ben, je cherche à me changer moi-même. Pour moi, c'est ma façon de répondre à l'amour de Dieu. En fait, ce que j'ai découvert avec un groupe de lecture dont je fais partie l'an dernier, là où on étudiait Saint Paul, c'est que pour Saint Paul, Dieu nous sauve. En fait, par la croix, on est sauvé. Et en fait, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on répond à ce don de Dieu. Et on peut y répondre, pour moi, en cherchant à se changer soi-même pour changer le monde et pour toujours plus aimer son prochain comme soi-même. Merci.